Agriculture européenne. 1000 ans de savoir-faire paysan sacrifié. 24 janvier 2024. Au cours du précédent millénaire, la paysannerie a su développer un savoir-faire respectueux de l'environnement et de l'avenir. C'est l'enseignement que nous avons tiré d'un débat au rendez-vous de l'histoire de Blois, 18 à 22 octobre 2012, avec le professeur Philippe Desbrosses, l'agronome Marc Dufumier, l'historien Michel Van Der Poel et l'ingénieur Mathieu Calame. 12 ans après, ce débat nous éclaire sur l'impasse dans laquelle se voient enfermés les paysans français et européens, victimes d'une idéologie néolibérale, dico, mondialisée et normative qui a passé par perte et profit la paysannerie familiale. Un savoir-faire millénaire ignoré. L'agronome Marc Dufumier nous rappelle comment la paysannerie, au fil des générations, a su sélectionner des variétés animales et végétales adaptées à leur terroir. Ici, où sévissent les insectes, on a, d'une année sur l'autre, peu à peu éliminé les céréales à épis lisses pour ne retenir que celles à épis velus, qui ne permettent pas aux insectes de piquer les graines. Là, où sévissent surtout les chenilles, on a conservé les plantes à feuilles lisses, sur lesquelles les papillons ne peuvent pas pondre leurs œufs. Ainsi la paysannerie traditionnelle a-t-elle accru la biodiversité? Labourage Nivernais en 1849, Rosa Bonheur, Paris, Musée d'Orsay. La révolution scientifique de la fin du XIXe siècle a amorcé un retournement de tendance. Les laboratoires ont lancé des recherches sur des plantes à haut rendement, et comme il eût été trop coûteux de mettre au point des variétés adaptées à chaque terroir, ils ont mis au point des variétés d'application universelle et corrigé leurs faiblesses par le recours de plus en plus massif à des produits phytosanitaires ou à des amendements, engrais, chimiques. Désormais, on peut ainsi rencontrer les mêmes variétés de blé, de maïs ou de riz dans toutes les plaines céréalières du monde. L'ingénieur Mathieu Calame note avec un clin d'œil que le développement de l'industrie des engrais azotés est consécutif à la Grande Guerre. Pendant celle-ci, on a produit du nitrate en masse pour la fabrication des explosifs. La paix venue, on a reconverti les usines vers la production d'engrais azotés. L'ancienne usine AZF de Toulouse, qui a explosé en septembre 2001, est l'illustration de ce phénomène. Sa proximité et l'activisme de ses commerciaux ont fait des agriculteurs de la région les plus gros consommateurs d'engrais azotés de France. L'emploi des engrais azotés a été aussi favorisé par la fin de la polyculture et la spécialisation des productions agricoles. En effet, lorsqu'un paysan cultivait des céréales, et en même temps élevait des animaux, les déjections de ceux-ci étaient épandues dans les champs, et permettaient un cycle court des nutriments en azote, phosphore et carbone. Aujourd'hui, faute de fumier à leur disposition, les céréaliers doivent recourir à des engrais chimiques cependant que les éleveurs doivent traiter la lisier sans profit pour quiconque. Et avec qui plus est des modifications dommageables de la faune et de la flore des eaux fluviales et littorales. Il s'ensuit qu'une vision comptable à courte vue de la modernisation des exploitations agricoles peut entraîner au niveau collectif un résultat négatif si l'on prend en compte les conduits. La vogue des engrais azotés. La production d'engrais dans le monde est passée entre 2002 et 2019 de 87 millions de tonnes, MT, à 123 MT. Le principal producteur est la Chine avec 32 MT, soit un quart de la production mondiale, devant l'Inde avec près de 14 MT. Dans l'Union européenne, la consommation en engrais azotés est estimée à 59 kg par hectare, de 19 kg par hectare au Portugal à 125 kg par hectare aux Pays-Bas. L'historien Michel Van Der Poel signale également un changement d'approche irrationnelle dans les calculs de performance. Jusqu'au XIXe siècle, les paysans évaluaient leur performance en nombre de grains récoltés par grain semé. On obtenait déjà au Moyen Âge, dans des régions privilégiées comme l'Île-de-France, un rapport de 7 ou 8 grains récoltés pour un semé. Cette performance est encore aujourd'hui hors de portée pour beaucoup de paysans des pays pauvres. À cet indicateur de performance rationnelle, on compare ce qui est produit à ce qui est consommé, on en a substitué un autre qui leste beaucoup moins, le rendement à l'hectare. Cet indicateur fait fi de tous les intrants, produits phytosanitaires, hydrocarbures, engrais, usure des machines. Ainsi certaines grandes exploitations intensives peuvent-elles se révéler destructrices de capital. Elles sont à leur manière aussi prédatrices que les premiers agriculteurs qui brûlaient la forêt vierge et dégradaient les sols pour quelques maigres récoltes. Ces exploitations peuvent à bien y regarder se révéler moins performantes que les exploitations familiales traditionnelles ou bio qui utilisent très peu de produits chimiques, de gros engins et d'hydrocarbures, bien qu'avec un rendement brut à l'hectare 2 ou 3 fois inférieur. Si l'on voulait revenir à une approche rationnelle de l'économie paysanne, il faudrait mesurer la valeur ajoutée par unité produite en soustrayant de sa valeur marchande tous les coûts, semences mais aussi intrants, engrais azotés, machines, pesticides et alimentation animale d'importation, pour taux de soja transgénique. Il va de soi que l'agro-industrie se révélerait dans ces conditions bien moins profitable qu'on ne le croit. Philippe Desbrosses souligne à ce propos une vérité cachée établie par le prix Nobel Amartya Sen, à savoir que les petites exploitations sont plus productives que les grandes. Il en appelle à une agriculture intensément écologique plutôt qu'écologiquement intensive. Pour une concurrence loyale entre paysans et agro-industriels. Les paysans ne peuvent plus se passer des aides publiques. Elles leur sont devenues indispensables pour financer leurs achats, matériels, produits phytosanitaires, soja transgénique, énergie, etc., et ainsi obtenir assez de rendement pour s'assurer un revenu décent. Si l'on souhaitait vraiment orienter la paysannerie vers une agriculture moins coûteuse en énergie, produits chimiques et machines, cela pourrait se faire au niveau national ou européen, PAC, politique agricole commune, d'une part en augmentant le montant brut des aides, mais d'autre part en soustrayant les achats ou intrants de celles-ci, de la sorte, si un paysan achète pour 1000 euros d'engrais ou de soja, les aides qu'il recevra seront diminuées d'autant. S'il renonce à tout ou partie de ses intrants, il va voir ses rendements et son revenu brut diminuer, mais il profitera d'un montant maximum d'aide publique, l'un compensant l'autre. Cette disposition fiscale, simple, incitative et non contraignante, mettrait ainsi à égalité les agro-industriels qui ont fait le choix d'une agriculture intensive et ceux qui assument des rendements inférieurs avec moins d'intrants. Il serait logique en effet que les premiers reçoivent moins d'aide que les seconds, les aides ayant vocation à rémunérer les paysans et non à grossir les profits des fournisseurs de machines, engrais, énergie, etc. Michel Van Der Poel rappelle que le progrès n'est pas linéaire. Le fameux agronome Olivier de Serres, contemporain d'Henri IV, a pour une bonne part emprunté à l'agronome romain Columelle ses recommandations concernant le remplacement de la jachère par des légumineuses, avec le double avantage que celles-ci nourrissent les sols, et nourrissent aussi les hommes en leur apportant des protéines sous la forme de lentilles et de pois. En dépit de leur pertinence, ces recommandations ont tardé à passer dans les faits, et la paysannerie française a même vu ses conditions de vie et de travail régresser de la fin du Moyen-Âge à la fin du règne de Louis XIV, en bonne partie pour des raisons sociales, poids de la fiscalité et des intérêts des classes dirigeantes pour le monde rural. Les légumineuses comme les lentilles et les pois sont aujourd'hui devenues marginales malgré leurs vertus, regrette Marc Dufumier. Pour l'amendement des sols et la fourniture de protéines, elles sont concurrencées par les engrais azotés et la production d'animaux en batterie. Fin de partie. Aujourd'hui, en France, les céréaliers betteraviers bénéficient de conditions matérielles plutôt confortables. Les autres paysans, en particulier les éleveurs, bénéficient de conditions matérielles proches de celles des employés, ce qui n'est déjà pas si mal au regard du passé. Mais en contrepartie de ce relatif bien-être, ils ont dû sacrifier leur indépendance à l'agro-industrie, la grande distribution et l'administration, distributrice instable d'aides et de règlements. Ils sont souvent devenus des ouvriers à domicile payés à la pièce, mais toujours à la merci du climat et de la spéculation, ainsi que le déplore Mathieu Calam. Ils sont plus que tout dans l'incertitude du fait de décisions politiques non concertées prises à Paris, Bruxelles, Berlin, ou ailleurs et qui, brutalement, peuvent remettre en cause leur équilibre financier et leur viabilité. On vient ainsi de le voir avec les accords de libre-échange avec l'Ukraine, sous prétexte d'aider le peuple ukrainien, on a accueilli dans l'Union européenne des produits à très bas coût, céréales, poulets, etc., issus d'une agriculture ultra-industrialisée héritée des sovkhoz soviétiques, et aujourd'hui entre les mains de quelques oligarques locaux et de fonds de pension américains. On l'a vu précédemment avec les accords de libre-échange conclus avec le monde entier, Canada, Brésil, Nouvelle-Zélande, par la caste dominante, contre l'opinion publique européenne et contre les règles démocratiques élémentaires. Ces accords donnent la mesure de l'aveuglement idéologique des gouvernants français et européens qui croient aux vertus du libre-échange mondialisé, lesquelles n'ont jamais été démontrées par l'histoire. Ils organisent l'importation d'aliments à des prix imbattables mais produits sans précaution environnementale, et transportés au prix de colossales émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, sans crainte des contradictions, ils multiplient les normes environnementales qui étouffent les paysans français et européens sous la paperasserie et les charges administratives. Il est stupéfiant de constater en ce mois de janvier 2024 que les paysans allemands et hollandais eux-mêmes, grands gagnants de la PAC et de la monnaie unique, rejoignent aujourd'hui les paysans français dans la révolte. Pour la France, le bilan de la politique néolibérale insensée menée avec obstination depuis 20 ans est proprement atterrant. La France a perdu en 20 ans sa place parmi les grands exportateurs de produits agroalimentaires. Elle est passée du deuxième au cinquième rang d'exportateur mondial cependant que sa production a stagné. Elle est en passe de devenir débitrice nette avec plus d'importations que d'exportations. C'est une contre-performance absolue dans un pays aussi exceptionnellement doté par la nature et riche d'un savoir-faire paysan millénaire sans guère d'équivalent dans le monde. Pas sûr que les paysans soient réconfortés par le projet actuel de couvrir les dernières terres agricoles de panneaux photovoltaïques. André Larané. Publié ou mis à jour le 24 janvier 2024, 9h34 et 21 secondes.